a song that comes from Tanzania. Malaika, nakupenda malaika. Malaika.
Bonjour, bonjour, auditrices et auditeurs de Radio Galère. Cette semaine pour Livres et Amis, à nouveau Françoise et Dominique, avec Sceaux et Louise à la technique. Nous sommes le mercredi 27 mars et nous allons vous présenter non pas un, mais deux livres. Et je vais d'abord vous raconter pourquoi, vous raconter en fait ma soirée d'hier au cinéma. Et oui, je vais beaucoup au théâtre et au cinéma, je vous en parle assez souvent. Au théâtre, il y a en ce moment le Festival des Écritures du Réel. Il va y avoir bientôt le 25e Festival National du Théâtre Amateur, qui sera aussi à Marseille, avec beaucoup de participation d'amateurs, justement, on en reparlera. Et puis, au cinéma, il y a début avril, le Printemps du film engagé. On en a déjà parlé et on en reparlera aussi. Mais on a eu hier soir en prémisse ou en préfiguration, si on peut dire, au cinéma Le Gyptis, la projection d'un film de Yanis Yuluntas, Nous n'avons pas peur des ruines. Nous n'avons pas peur des ruines et surtout nous aimons Yanis Yuluntas. Voilà, Yanis Yuluntas, il est presque marseillais puisqu'il est né et qu'il a passé une partie de son enfance à Martigues. C'est un voyageur, c'est un poète, c'est un philosophe, c'est un réalisateur de cinéma, donc, grec par son père, français par sa mère, et surtout et avant tout, un libertaire et un militant. Ses films précédents, vous en avez peut-être entendu parler, c'était « Ne vivons plus comme des esclaves » en 2013, « Je lutte donc je suis » en 2015, « L'amour et la révolution » en 2018, et donc, le dernier, « Nous n'avons pas peur des ruines », qui était en projection au Gyptis et qui est en projection militante un peu partout en France, en présence du réalisateur. Donc, hier soir, au Gyptis, nous avons vu « Nous n'avons pas peur des ruines », nous avons rencontré Yanis Yuluntas et c'était une soirée libertaire, révolutionnaire, enthousiasmante et c'est bien pour ça que je voulais vous en faire part. Alors, le film « Nous n'avons pas peur des ruines » a été tourné sur une période de 4 ans à Athènes, de 2019 à 2023, pour montrer la lutte du quartier Exarchie, qui lutte donc contre les attaques répétées du gouvernement de droite de Kyriakos Mitsotakis et du maire d'Athènes également de droite. Donc, la volonté populaire de certains quartiers d'Athènes, c'est d'échapper au pouvoir de domination de la droite et de l'extrême droite, qui ont, eux, pour projet, si on peut dire, de nettoyer Athènes et de nettoyer Athènes de ces zones anti-autoritaires, de ces zones révolutionnaires qui abritent dans des immeubles squattés des personnes migrantes, des personnes réfugiées, des personnes précaires qui seraient sinon, en l'absence de ce système anti-autoritaire, dans des camps ou dans des conditions de vie épouvantables. Dans le quartier d'Exarchia et dans les alentours, les militants libertaires et les militants d'extrême gauche ont créé d'autres conditions de vie, ont créé des lieux d'une vie autogérée, d'une nouvelle structure sociale, toute chose évidemment totalement insupportable pour le pouvoir de droite en place dans la ville d'Athènes ou en place en Grèce. En filmant Athènes, Yanis Yuluntas a aussi photographié les murs et il a relevé des slogans, des déclarations, des citations qui appuie et argumente l'autogestion mise en place dans le quartier d'Exarchia. En fait, l'autogestion, faut peut-être l'expliquer un peu plus. Ils ont véritablement mis en place un système social différent, puisque En dehors des immeubles squattés, ben, il y a aussi évidemment des épiceries solidaires, des écoles ou des bibliothèques solidaires et même, tenez-vous bien, des pompiers solidaires. Parce que la population d'Athènes s'est aperçue qu'avec la politique de rigueur appliquée à la suite des demandes de l'Europe depuis 2008-2010 par les gouvernements grecs, eh bien en fait, à la suite des mesures de rigueur et des mesures d'économie faites évidemment et essentiellement sur les services publics, même par exemple un service comme celui des pompiers, a été délaissé et il y a eu un certain nombre, bon, tout le monde a entendu parler des incendies dans les pays méditerranéens, bien sûr, mais il y a eu à Athènes et en Grèce des incendies contre lesquels les pompiers n'ont pas pu lutter parce qu'il manquait de moyens. Donc, je ne sais pas comment on pourrait appeler ça, la République autonome d'Exarchia a mis en place des services de pompiers qui organisent des veilles et des tours de prévention et qui sont sur place très vite. Ils n'ont peut-être pas de gros moyens non plus, mais comme ils sont complètement insérés dans la population et relayés par la population, dès qu'il y a un souci même mineur, eh bien, ils peuvent intervenir. Donc, en fait, c'est vraiment ça, la vie nouvelle ou la vie sociale nouvelle d'Exarchia, c'est que finalement les choses sont prises en charge à un degré direct par la population. C'est vraiment une société de l'autogestion que les militants et les habitants essayent de mettre en place. Donc c'est cette vie du quotidien, cette vie différente, que documente un ouvrage de photos, donc au-delà du, on pourrait même dire avant le film, un ouvrage de photos de Yannis Yuluntas, qui est paru aux éditions Libertaires, dans la collection qui s'appelle Parole, et donc l'ouvrage de Yannis Yuluntas s'appelle Parole de murs athéniens. Les paroles des murs athéniens, ce sont, comme je vous le disais, des formulations qui ont été photographiées, copiées sur les murs. Et ce sont aussi des affiches ou des tracts qui ont été relayés justement par Yannis Yuluntas à partir d'un certain nombre de citations photographiées ou relevées sur les murs. Donc, la parole est maintenant au mur d'Athènes. Après que nous ayons rappelé ce que disait Jacques Lacarrière des relations entre la Grèce antique et la Grèce moderne, justement. Vous savez, Jacques Lacarrière, c'est un grand humaniste qui a beaucoup cheminé en Grèce depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Il connaît bien, évidemment, la civilisation de la Grèce antique et il dit: si l'on veut trouver certains aspects vivants de la Grèce antique, il ne faut pas les chercher dans les monuments ni même dans les lieux, mais dans telle ou telle façon d'être ou de vivre. Donc finalement, ce qu'il dit, c'est ce qu'on pourrait dire de cette société d'Exarchia, c'est que la démocratie presque directe de la Grèce antique, même si elle était pleine de défauts, est relayé au fond par la démocratie directe de la Grèce moderne, en particulier dans les sociétés autogérées de quartiers comme Exarchia ou ceux d'autres villes grecques qui ont essayé de vivre de façon différente, justement, pour s'opposer aux mesures de rigueur des différents gouvernements et même de Tsipras en Grèce depuis 2008. Donc, une manière nouvelle d'être et de vivre, c'est ce que revendiquent précisément les habitants d'Exarchia. Et leurs formulations ont pris des couleurs éventuellement violentes, pourrait-on dire, puisque en 2008, malheureusement, lors des manifestations contre la rigueur, un jeune, un très jeune, ils ont dit un enfant de 15 ans a été tué par la police. Et cet enfant, ou ce jeune, Alexandros, enfin, la mort de ce jeune, disons, a donné la parole à tous ceux qui, comme lui, s'opposaient au pouvoir et a redonné une grande force à la résistance, justement, de la population. Une des premières formules relevées sur un mur, c'est « Quand les jeunes sont assassinés, les vieux ne doivent pas dormir ». Alors non, effectivement, nous ne dormons pas. Vous savez, en plus, quand on est vieux, on a de plus en plus d'insomnie, on dort de moins en moins. Mais c'est vrai qu'il y a plein de choses qui nous empêchent de dormir ces temps-ci. Il y a la violence policière, oui, il y a la violence de l'administration qui essaye de rejeter hors de nos frontières des jeunes que nous aimerions bien accueillir. Donc, c'est vrai que la violence de la société capitaliste est telle que, oui, elle nous empêche de dormir et que les violences de cette société font que, en effet, il ne faut jamais se rendormir. Enfin, peut-être quelquefois quand même, mais pas trop. Donc, une manière nouvelle d'être et de vivre, disais-je, c'est en effet ce que formulent aussi des grands auteurs, des auteurs, on pourrait presque dire classiques, qui ont formulé à propos de la Grèce on pourrait presque dire des slogans tout à fait intéressants. Alors, je vais commencer par Albert Camus. Albert Camus, dont on trouve une citation sur un mur d'Athènes et qui avait dit: il n'y a ni justice ni liberté possible lorsque l'argent est roi. Et puis derrière Camus, ben Henry Miller qui disait: la Grèce a fait de moi un homme libre et entier. Et puis bien avant et à l'époque du Quatuor d'Alexandrie, Lawrence Durrell qui a dit de la Grèce: ce petit pays, si souvent violé, fracassé, réduit en miettes, n'a jamais eu de frontières géographiques permanentes. En fait, ce n'est pas vraiment un État-nation, c'est plutôt un État d'esprit. Donc avec toute la formulation et la manière frappante de voir cette formulation, eh bien oui, il y a eu, après la mort d'Alexandros, un certain nombre de réactions et de formulation dans la population qui ont fait se lever, disons, les gens, la base, comme on dit, un petit peu comme nous avons eu les Gilets jaunes, et des gens qui ont réagi même éventuellement contre les syndicats organisés qui ont été taxés de réformistes, avec en tête, en Grèce, ce syndicat réformiste, donc je traduis GSEE par la Confédération Générale des Travailleurs de Grèce. Eh bien, la population a contesté, disons, le pouvoir de direction de la GSEE pour écrire sur les murs qu'il fallait trouver d'autres formes d'organisation. Nous, travailleurs manuels, employés, chômeurs, intérimaires, précaires, travailleurs locaux ou migrants, nous avons décidé d'occuper le bâtiment de la Confédération générale des travailleurs en Grèce pour le transformer en espace de libre expression et en point de rendez-vous pour les travailleurs. Pour démasquer le rôle de la bureaucratie syndicale dans le travail de sape contre l'insurrection, mais aussi d'une manière générale. La Confédération générale des travailleurs de Grèce, la GSEE, est l'intégralité de la machinerie syndicale qui la soutient depuis des dizaines d'années. En réalité, sape les luttes parce qu'elle négocie notre force de travail contre des miettes. Elle perpétue le système d'exploitation et de l'esclavage salarié. L'attitude de la GSEE a été récemment lamentable et elle parle d'elle-même. La GSEE, par exemple, a annulé la manifestation des grévistes pourtant programmée la semaine dernière en se rabattant précipitamment, comme l'État, enfin comme le gouvernement lui avait demandé, sur un bref rassemblement, en se rabattant donc sur une petite rencontre qui assurait simultanément que les participants se disperseraient très vite, parce qu'on avait peur, on avait peur d'eux, on avait peur qu'ils infectent et qu'ils transmettent à la population le virus de l'insurrection. Contre cela, nous voulons propager l'idée de l'auto-organisation, l'idée de la solidarité sur les lieux de travail, la cohésion de comités de lutte comme des processus collectifs de base, abolissant les bureaucraties syndicales. Donc, vous l'avez bien compris, il s'agit, là comme dans d'autres endroits, de donner la parole aux travailleurs, de donner la parole à l'autogestion des travailleurs et de faire que ce soit véritablement cette autogestion des travailleurs qui décide d'un certain nombre d'actions. L'action, justement, ils en parlent. Notre action est une réponse aux pressions accumulées qui ravagent nos vies, et pas seulement un embrasement sentimental lié au meurtre d'Alexandros Grigoropoulos par la police grecque. Nous ne sommes que l'un des regroupements spontanés qui participent à la révolte sociale en cours. Contre la domestication par les médias, nous, citoyens autonomes, nous, citoyens qui organisons l'autogestion, nous interrompons ici et maintenant la diffusion de la chaîne nationale grecque. Alors ça, c'était au moment où ils sont allés occuper les studios de la radio et de la télévision. Nous nous organisons nous-mêmes. Aucune autorité n'apportera de solution à nos problèmes. Nous nous rassemblons et nous organisons dans les espaces publics, dans les rues, sur les places, dans les parcs et dans les écoles, en zones d'expression non médiatisées. Nous nous rassemblons face à face, côte à côte, pour mettre en place ensemble nos discours et nos actions. Nous surmontons notre peur, nous éteignons nos télés, nous sortons de nos maisons et nous continuons à communiquer en prenant nos vies en main. Donc ce message, il a été placardé sur les murs et il a été aussi diffusé justement pendant le très bref petit moment dans lequel un groupe avait occupé la radio et la télévision à Athènes. Et il est placardé avec un slogan, ou plutôt une formule de Noam Chomsky qui disait « La propagande est aux démocraties ce que la matraque est aux dictatures ». Donc effectivement, pour lutter contre la propagande, y compris de la démocratie, et pour lutter, bien sûr, contre la matraque des dictatures, eh bien, c'est l'auto-organisation et l'auto-gestion que prônent les travailleurs, en Grèce en l'occurrence, à Athènes plus précisément, et dans le quartier d'Exarchia. Après les grands auteurs que nous venons de voir, là, et après les déclarations du syndicat, il faut aller peut-être observer ce qui s'est vraiment passé. Ce qui s'est passé, c'est qu'entre 2008 et 2010, il y a eu un certain nombre de violences en Grèce qui ont été condamnées, bien sûr, par le pouvoir en place et même par le pouvoir européen, puisque c'était l'Assemblée et la Commission européenne qui avaient demandé à la Grèce, justement, de mettre en place leur politique de rigueur. Eh bien, il y a eu des réactions très violentes. Et là encore, la base des travailleurs qui avaient mis en place ce système d'autogestion a expliqué ces actions. Ils ont écrit, par exemple, dans un nouvel affichage, « La rage contre le système, contre la machine, elle est presque sans limite, oui, chez certains. » Puisqu'on ne peut éprouver que de la haine envers un système politique aussi parfaitement autiste, arrogant et corrompu. Alors oui, bien sûr, les destructions qui ont suivi la mort d'Alexandros ont parfois été aveugles et mal comprises, quand il s'agissait de petits commerces, par exemple. Mais dans l'ensemble, c'est tout de même les banques et les institutions qui ont été le plus frappées. Parce que les banques incarnent le système qui nous opprime, le grand n'importe quoi, la religion de l'argent. Les jeunes ont brûlé les temples de l'argent. Ils ont brûlé les temples de l'argent roi. Ils ont dit « Stop, ça suffit » à la domination des banques qui incarnent la domination du capitalisme. Et la citation est signée d'un militant, Tassos Christopoulos. C'est « Beaucoup ont cru et croient encore au système, mais tout cela s'effrite et va continuer à s'effriter jour après jour. Le géant capitaliste est maintenant démasqué aux yeux de tous et vacille sur ses bases, mais il ne tombera pas tout seul. Donc tout le monde doit entrer dans la lutte, parler, agir, soutenir. L'heure n'est plus au repli sur soi, mais à la solidarité avec ceux qui osent et donc à la mise en place de l'autogestion entre tous ceux qui osent. » Et là, encore une citation d'un grand auteur qui parle du sommeil, vous allez voir, ou du fait qu'il ne faut pas dormir. « Du fond de la nuit, écrit Robert Desnos, du fond de la nuit, nous témoignons encore de la splendeur du jour et de celle du présent. Si nous ne dormons pas, c'est pour guetter l'aurore qui prouvera qu'enfin nous vivons au présent. » Ben oui, merci Robert Desnos. Rappelle-toi, Desnos, qui partit de Compiègne, etc., etc. Vous savez, Robert Desnos, il est mort à Theresienhof, dans ce qui est maintenant la Tchécoslovaquie. Donc, après Desnos, après les citations de nos amis grecs, eh bien, nous allons continuer avec encore quelques citations militantes. Et ces citations militantes, il y en a une qui est signée de Chronis Missios. Nous avons fait de notre corps un vaste cimetière d'anticipation et de désir assassiné, parce que nous abandonnons les choses les plus importantes, les plus essentielles, et celles justement qu'il ne faut pas abandonner, comme jouer et parler avec les enfants, comme jouer et parler avec les animaux, avec les fleurs, avec les arbres, comme s'amuser les uns avec les autres, comme être heureux, faire l'amour, profiter de la nature, aller voir les productions merveilleuses des ouvriers qui sont en effet les productions de la main humaine et de l'esprit humain, plonger doucement tout au fond de nous, tout au fond d'entre nous, et parvenir à nous connaître ou à connaître les autres. Donc c'est vraiment une espèce d'autogestion humaniste que prônent tous ces militants de l'autogestion d'Exarchia à Athènes. Et ils ont rappelé que leur proposition était aussi voisine de celles que vous connaissez sûrement bien, qui sont celles de Gébé dans l'an 01. Vous savez, les aspirations collectives qui prenaient effet de résolution à partir du 1er de l'an 01 et qui devenaient applicables par accord tacite et collaboration libre de toutes les personnes vivant autour de cet an 01. Alors, vous vous souvenez des propositions de GB. Résolution 1, on arrête tout et c'est pas triste. Résolution 2, après un temps d'arrêt total, nous serons ranimés. Parce que les services et la production dont le manque se fera sentir se révélera assez intolérable. Et oui, le manque de l'eau pour boire, le manque de l'électricité pour lire le soir, et le manque de la télé pour dire « Mais non, ce n'est pas la fin du monde, c'est seulement l'an 01 ». Donc, dans la résolution 2, eh bien oui, il faut remettre en place un certain nombre de choses. Et la résolution 3, c'est « Les individus ne consentent plus à déléguer leur pouvoir. Aucune forme d'autorité, aucune forme de hiérarchie, rien ne pourra plus manifester son emprise sur l'autogestion des individus. » Alors, l'autogestion des individus ou l'autogestion des sociétés, bien sûr, ça nous rappelle aussi le situationnisme de Guy Debord, et puis d'un autre militant que connaît bien Yanis Yuluntas, qui est le militant d'origine belge Raoul Van Eghen. C'est vrai que Van Eghen a beaucoup travaillé avec Debord et qu'il a fait aussi des propositions situationnistes qui ont beaucoup fonctionné, je dirais, ou qui ont été beaucoup à l'origine de la prise de pouvoir populaire dans un certain nombre de sociétés ou de micro-sociétés autogérées. Je vous cherchais aussi une citation de Foucault. Ah ben voilà, ça y est, j'ai trouvé Foucault. Foucault qui a tant travaillé sur les fermetures. Il nous disait « Quoi d'étonnant si la prison ressemble aux usines, aux écoles, aux casernes, aux hôpitaux, qui tous ressemblent eux-mêmes aux prisons. » Donc effectivement, Michel Foucault, cet auteur brillant, en particulier de « Surveiller et punir », qui a précisément étudié de très près toutes ces formes de fermeture et d'enfermement de la population déviante, eh bien, Michel Foucault, il nous invite lui aussi à l'autogestion, bien sûr, comme les libertaires d'Athènes, mais pas seulement les libertaires d'Athènes. Et on va, en attendant de parler d'un autre auteur, on va faire appel à un peu de musique. C'est la musique des Quatre Barbus pour une chanson qui s'appelle « Le triomphe de l'anarchie ». Vous le trouverez interprété par un certain nombre de personnes différentes. J'aime bien l'interprétation de Rosalie Dubois, mais la qualité était vraiment pas bonne. Donc nous allons écouter les Quatre Barbus dans « Le triomphe de l'anarchie ».
Curiosité, gouvernement, caserne, cathédrale, qui sont pour nous autant d'absurdités. Dès aujourd'hui, vivons le communisme, ne nous groupons que par affinité. Notre bonheur naîtra de l'altruisme, que nos désirs soient des réalités. De vos compagnons de misère, l'heure est venue, il faut nous révolter. Que le sang coule et rougisse la terre, mais que ce soit pour notre liberté. C'est reculer que d'être stationnaire, on le devient de vos philosophies, de vos vieux révolutionnaires, et l'anarchie enfin va triompher. De vos vieux révolutionnaires, et l'anarchie enfin va triompher. Empare-toi maintenant de l'usine, du capital, ne sois plus serviteur. Reprends l'outil et reprends la machine, tout est à tous, rien n'est à l'exploiteur. Oui, la patrie est une baliverne, un sentiment doublé de lâcheté. Ne deviens pas de la viande à caserne, je le conscris, il vaut mieux déserter. De vos compagnons de misère, l'heure est venue, il faut nous révolter. De vos vieux révolutionnaires, et l'anarchie enfin va triompher. Tous les élus foulés à la potence, lorsque l'on souffre, on doit pouvoir châtier. Leurs électeurs, froyez-les d'importance, envers aucun, il ne faut de pitié. Que la nitro, comme la dynamite, soit là pendant qu'on discute raison. S'il est besoin, renversons la marmite, mais de nos mots, hâtons la guérison. De vos compagnons de misère, l'heure est venue, il faut nous révolter. Que
le sang coule et rougisse la terre, mais que ce soit pour notre liberté, c'est reculer que d'être stationnaire. On le devient de trop philosophie, debout, vieux révolutionnaire, et l'anarchie enfin va triompher. Debout, vieux révolutionnaire, et l'anarchie enfin va triompher.
Oui, ben merci, merci les quatre barbus. L'anarchie va triompher. Alors, ce qui est intéressant, c'est que un peu pour Yanis Yuluntas, comme pour notre prochain auteur, l'anarchie, c'est l'ordre, en fait. L'anarchie, c'est un nouvel ordre. Et ce qui est vraiment intéressant, c'est que leur anarchie est une anarchie organisée. C'est donc, comme on disait tout à l'heure, une société autogérée, une société qui s'organise elle-même. Et donc, c'est simplement, on pourrait dire, oui, l'anarchie, dans le sens où il s'agit de refuser le système en place, où il s'agit même de détruire le capitalisme. C'est bien pour ça, d'ailleurs, que le film s'appelle « Nous n'avons pas peur des ruines ». Mais finalement, il s'agit, en détruisant le système capitaliste en place, de construire une société autogérée et de mettre en place une organisation qui soit effectivement égalitaire et en effet sans gouvernement et sans domination. Donc c'est vraiment ça la caractéristique, pourrait-on dire, libertaire des mouvements grecs et des mouvements qui ont permis la société d'exarchie, hein, la société de ce quartier d'Athènes autogéré, donc. Et à exarchia, donc, il y a un nom qui circule beaucoup, un nom que, je dois dire, j'ignorais totalement, c'est celui de Anselme Belgarigue. Et Anselme Belgarigue, c'est notre deuxième héros de la journée. C'est pas l'auteur du livre, mais c'est le personnage à qui Michel Perraudeau consacre un livre. Anselme Belgarigue, c'est en sous-titre « Le premier des libertaires ». Alors peut-être pas le premier des libertaires, mais le premier des penseurs libertaires, puisque, en effet, il écrit des textes assez inconnu en France. Enfin, si vous connaissez, je suis contente pour vous parce que c'est intéressant. Mais très connu ailleurs et en particulier en Grèce. Donc, Yanis Yuluntas nous a dit que, Anselme Belgarigue, c'était une des bibles de la société autogérée d'Exarchia. Et, peut-être pas la Bible, vous m'excuserez, le terme est très mal choisi, bien sûr, ni Dieu ni maître, mais au moins un des écrits fondateurs de cette société autogérée qu'il s'efforce de mettre en place. Donc, on va consacrer maintenant le temps qui nous reste à parler de Anselme Belgarigue et à lire certaines de ses citations. Alors d'abord, penchons-nous sur ce jeune homme-là, Anselme Belgarigue. Si vous allez voir sur Internet, c'est un beau barbu, lui aussi, c'est pas un des quatre barbus, c'est notre cinquième barbu en l'occurrence. C'est un beau barbu comme on en faisait à l'époque de la Deuxième République, à l'époque donc de la Révolution de 1848. Lui, il est né en 1813, il est né dans le Gers. Et il s'appelle Belgarigue. Moi, j'ai trouvé ça génial. Hein. Franchement, quand on est du Sud, que ce soit le Sud pyrénéen ou le Sud méditerranéen, Belgarigue, ça évoque tout de suite des tas de choses. Donc, d'abord, Françoise va nous en dire un peu plus sur, justement, d'abord, ce nom de Belgarigue.
Le nom Belgarigue est typique de la langue d'oc. La France fut longtemps partagée en plusieurs zones linguistiques. Au nord de la Loire, à l'exception de la Bretagne ayant conservé son idiome celte, étaient pratiquées les langues d'oïle, creusées où se mêlèrent vieux parler gaulois, latin de cuisine, particularisme linguistique et apport des francs, des germains, des visigoths, des vikings et autres barbares. Au sud, sauf en ce qui concerne le Pays basque, s'épanouissaient les langues d'oc, venant essentiellement du latin, donc plus fortement romanisée que celle du Nord, et souvent enrichie de termes et expressions issus de parler périphériques. Le patronyme Belle-Garrigue est composé de deux mots, Belle et Garrigue, tous deux issus de la langue d'oc, conséquemment de source latine. Le mot Garrigue vient des formes anciennes Garrica ou Garriga, qui se rattachant à Garric, le chêne, et le gourmand se souvient d'une variété de fraises oblongues et goûteuses du sud-ouest, se nomme la Garriguette.
La Garriguette, ça plaît bien, Françoise.
Je viens d'en planter. Dans l'univers méridional, la Garrigue est une terre provenant de l'altération de la végétation habituelle, donnant anarchiquement cours aux broussailles et arbustes, tels le petit chêne vert. Le patronyme Garrigue, attaché à ce nom commun, se retrouve dans le Grand Sud-Ouest sous diverses variantes. Garrigou, Garrigou avec un X dans le Massif central, Garriga dans une forme plus catalane, la Garrigue et ses variantes, la Garrigue avec un seul R, ou la Garrigue dans un modèle francisé. Reste Belle-Garrigue, le patronyme. Il fut fort répandu au XVIIIe et XIXe siècle dans le Grand Sud-Ouest, principalement dans les départements de Tarn-et-Garonne, de Haute-Garonne, du Lot et du Gers. Il exista un important imprimeur à Toulouse nommé Pierre Belle-Garrigue depuis la Révolution de 1789 jusqu'à la seconde partie du XIXe siècle. Il était né en Haute-Garonne en 1744. Après avoir été compagnon imprimeur, il obtient le droit d'exercer comme libraire à compter de 1785, puis, trois années plus tard, il est nommé imprimeur et travaille place du Palais à Toulouse. Ensuite, il installe son imprimerie successivement rue Nazareth, rue de la Liberté et rue des Filatiers. Selon le climat politique, les ouvrages édités portaient l'une ou l'autre mention « imprimeur du Parlement », « imprimeur » de son Altesse royale, Monsieur Frère du Roi, ou imprimerie du citoyen Belle-Garrigue.
Ah oui, quand même.
On trouvait durant la première moitié du XIXe siècle Charles Belle-Garrigue, notaire à Cologne, dans le Gers, et Charles Belle-Garrigue, né en 1817, propriétaire, maire de Toux, mais peut-être s'agissait-il du même. Victor Belle-Garrigue, né en 1838, était propriétaire à Solomiac.
Et donc nous, notre Belle-Garrigue, tu peux continuer.
Anselme Belle-Garrigue, comme ses ancêtres directs, est donc né à Montfort, petit bourg du Gers, campagnard. Région des truffes, de la volaille fermière, de la vache mirandaise, de la garbure, du pastis gascon, du confit, du madiran et de l'armagnac. Situé dans la partie est du département, comptant aujourd'hui 400 habitants. Son prénom, Anselme, est peut-être un hommage à Anselme d'Aoste, archevêque de Cantorbéry, qui vécut au XIe siècle et passa sa vie à tenter de démontrer qu'il était insensé de nier l'existence de Dieu. Il se prénomme aussi Jacques, comme son oncle, insistance de l'ancrage dans l'identité familiale. Il porte également le prénom de Marie, comme l'un de ses frères, pratique courante à l'époque, inscrivant l'enfant au sein de la communauté catholique, dans ce qu'elle a de plus sacré, la célébration du culte marial. Comme ses frères et sœurs, le jeune Anselme parlait la langue du terroir, même si la famille utilisait probablement davantage le français. Le père, ancien officier de l'armée impériale, dut y veiller. Se parlait vernaculaire et le gascon, l'une des langues d'oc en usage dans la partie aquitaine de la France, entre Océan et Garonne. C'était la langue du peuple, celle des villageois, des commerçants, des paysans, du bas clergé. Le français était usité essentiellement par l'administration, la noblesse, les officiers de l'armée et le haut clergé. Belle-Garrigue dut manier avec égale maîtrise le parler gascon et la langue nationale, et lorsqu'il parlait français, le terroir gascon d'origine devait s'entendre à travers son accent gersois. Il est certain que l'élève Belle-Garrigue a obtenu le baccalauréat. ce qui, pour l'époque, sanctionnait la réussite d'un solide parcours scolaire. Son fils, né en 1862 et prénommé aussi Anselme, écrit, en une longue lettre dans laquelle il parle cependant assez peu de son père, avoir retrouvé parmi d'autres papiers son diplôme de bachelier.
Eh oui, parce que Anselme Lagarrigue, en fait, Anselme Belgarrigue, notre deuxième héros du jour, on sait finalement pas grand-chose de lui. Il a publié, c'est ça qui nous intéresse, on va lire maintenant des extraits de ses œuvres, il a publié effectivement une œuvre importante et il a participé, il a dirigé même à l'édition d'un almanach, un almanach régulier, dont le premier numéro est de 1851, le deuxième de 1852, mais qui ne poursuivra pas puisque le régime de la Révolution de 1848 est remplacé par l'Empire, qu'on appelle le Second Empire, et qui devient très rapidement un régime autoritaire qui ne permettra plus justement les expressions du type de celles de Anselme Belgarrigue. Mais là, nous n'en sommes pas tout à fait là encore. Anselme Belgarrigue, dont je disais qu'on ne savait pas grand-chose, on sait quand même qu'après avoir passé son baccalauréat, il part voyager. Il avait déjà voyagé très jeune avec son grand-père, pratiquement à l'époque de l'école primaire. Il avait été déscolarisé un moment pour suivre son grand-père dans un genre de tour du monde. Et c'était son grand-père qui lui faisait la classe. Et là, de nouveau, quand il a passé son bac, eh bien, il quitte l'Europe. Il voyage en Amérique, en fait, dans les jeunes États-Unis de l'époque. Il voyage aussi aux Antilles. Et on nous dit que c'est presque un voyageur effréné. Il a voyagé donc sur le continent américain. Il y a un certain nombre d'indices qui nous montrent qu'il a quitté l'Europe dans les années 1845, 47, 48. Il ne revient donc à Paris qu'en 1848. Et d'ailleurs, ça sera pour publier ce dont on va parler ensuite, l'almanach de la ville multitude, en 1851 et 1852. Mais auparavant, il est donc un voyageur effréné, disent peut-être des amis à lui. C'est une formule qu'on trouve quand on parle de lui. Il descend le Mississippi. Il rencontre bien des penseurs américains, justement, qui sont encore presque révolutionnaires à l'époque. Et il critique, évidemment, à leur contact, l'ancienne monarchie française. Il critique le système de la monarchie en général. Et il rencontre même, un peu par hasard, sur un steamer qui descend le Mississippi, le président Polk, le président des États-Unis, qui tranquillement, lui aussi, visite son pays. On nous dit Anselme Belgarrigue fait une rencontre dans la lenteur du steamboat, une rencontre qui lui a permis de réfléchir au système, justement, de la présidence, entre guillemets, démocratique des États-Unis. Puisqu'il a rencontré donc ce président de la République américaine, Polk. Et quand il l'a rencontré et que Polk s'est présenté à lui, évidemment, le président était sans garde du corps, sans entourage particulier. Donc Anselme lui a dit « Seriez-vous de la famille du président ?» Et Polk a répondu « Ah, mais le président, c'est moi-même. » Donc, pas d'habit d'apparat, pas de casque rutilant ou de sabre au clair autour du président Polk, mais simplement la simplicité de la jeune démocratie américaine. Mais cette simplicité de la jeune démocratie américaine ne suffit pas à convaincre Anselme Belgarrigue. Il reste très critique du système en général et il continue à voyager. Il va après son disons relativement bref passage à Paris de 48 à 52, aller s'installer au Salvador. Mais nous n'y sommes pas encore. Il a rédigé, c'est un peu le problème, c'est qu'en dehors de l'almanach, Il a peu rédigé, et en particulier, ce qui est dommage, pourrait-on dire, c'est qu'il n'a pas véritablement tenu de carnet de route ou de journal de voyage de ses déplacements en Amérique ou aux Antilles. Il a simplement écrit des lettres. Et certaines de ces lettres qui ont été retrouvées, donc comme on le disait tout à l'heure, par son fils, certaines de ces lettres permettent effectivement de mieux comprendre ses analyses, ses réactions, etc. Mais c'est quand même difficile de connaître sa pensée, à part justement ce qui va apparaître, par exemple, dans son almanach, l'almanach de la ville multitude.
Il ne saurait être question de faire le tour des publications auxquelles Anselme Bellegarrigue collabora. Mais on ne peut omettre de présenter un journal des plus singuliers, l'almanach de la ville multitude.
Oui, en fait, alors je suis désolée, ce n'est pas commode de reprendre des lectures comme ça. L'almanach, enfin les almanachs, c'était des formes de publication très fréquentes depuis, je ne sais pas, le 16e, 17e siècle. Hein, ça a été bien documenté par les historiens. C'était véritablement des petits journaux annuels, vous savez, enfin vous avez peut-être encore entendu parler au XXe siècle de l'almanach Vermeaux, qui était comme un genre d'éphéméride avec sur chaque page consacrée à chaque jour ce qui se passe ou ce qui devrait se passer aux différents jours de l'année, aux différentes saisons, etc. Donc, l'almanach de la ville multitude, c'est vraiment, dans l'esprit de Anselme Bellegarrigue, une publication qui est vraiment faite pour le peuple. Et volontairement, c'est l'almanach de la ville multitude, parce que, précisément, le peuple est considéré à l'époque comme la ville multitude. Donc c'est un titre un peu provocateur de la part de Anselme Bellegarrigue que cet almanach de la ville multitude, puisque c'est véritablement un almanach qui s'adresse au peuple. Allons-y.
L'almanach de la ville multitude, par un de ses membres, paraît en 1851. Il s'agit d'un ouvrage de plus de 120 pages, réunissant de nombreux articles, les uns inédits, les autres déjà publiés. Figure en tête de l'almanach la liste des fêtes mobiles, des dates d'entrée et sortie de saison, les signes zodiacaux, les noms et symboles des planètes, les phases et éclipses de lune. L'almanach contient aussi le calendrier grégorien et son équivalent républicain, suivi d'une monographie des journaux républicains de Paris. On apprend ensuite l'origine de l'expression qui donne nom à l'almanach. Dans le dialogue d'un long texte intitulé « Prologue », un personnage dit « Qui traite le peuple de multitude, de ville multitude ? Un paltoquet politique, un faiseur d'opposition quand il n'était pas ministre, un flatteur de roi quand il avait un portefeuille. Et savez-vous ce qu'était cet homme avant que 200 électeurs provençaux l'eussent porté pour la première fois à la Chambre ? L'un des plus obscurs enfants du peuple qu'il renie. » Qu'il calomnie aujourd'hui. Monsieur Thiers a traité le peuple de vile multitude pour esquiver le jugement sévère que le peuple doit prononcer contre lui. Thiers fut le deuxième président de la République. Il favorisa grandement l'influence du clergé. Celui-ci développa à l'envi sa philosophie de nécessaire souffrance de l'homme afin de combattre toute velléité d'oisiveté, de jouissance ou simplement de revendication. Thiers, qui devint le sinistre boucher de la Commune, était déjà identifié comme politicien plus opportuniste que convaincu, traître à sa classe d'origine.
Oui, alors pendant qu'on tourne la page, évidemment, vous avez reconnu Thiers, notre affreux Marseillais, là, qui en effet va devenir le boucher de la Commune en 1871, il est déjà ciblé en 1851 par Anselme Bellegarrigue comme un affreux méchant qui sort du peuple et commence immédiatement, dès qu'il a un minimum de pouvoir, à critiquer justement ce peuple et à le mépriser.
Après les pages consacrées aux éphémérides, un long article prologue, non signé, mais avec forte présomption de Pic et Bellegarrigue, campe la position de la revue. Sa ligne de conduite principale s'appuie sur un anti-gouvernementalisme fortement libertaire. Suit le drapeau du peuple. Contre les trois couleurs de la République, au peuple, il faut un drapeau d'une seule couleur, qui est le rouge. Le drapeau rouge, c'est le lambeau de pourpre qu'on jeta avec moquerie sur les épaules du Christ. La souveraineté populaire tournée en dérision par les pharisiens, les gouvernants et les juifs de notre époque n'en sortira pas moins réelle et victorieuse de la lutte, à l'instar de la royauté du Christ. L'influence de la religion et des scènes suspiciennes dans ses propos est forte. Le parallèle entre le rouge et la souffrance du peuple et celui de la douleur du Christ est assez troublant.
Eh oui, troublant, parce qu'effectivement, ni Dieu ni maître, mais les références au Christ, c'était aussi des références à la population et à la généralité de ce qu'on pouvait connaître à l'époque.
On trouve des poèmes et chansons, ainsi qu'une présentation du livre de Bellegarrigue, au fait, rappelant qu'Anselme rentra en France venant de son séjour nord-américain en février 1848 au bruit d'une révolution qui s'intitulait « Radicale ». L'almanach de la ville multitude, comme à peu près toutes les publications, ne résista pas aux procès, condamnations et interdictions qui préparèrent et suivirent le coup d'État de Louis-Napoléon. À la congratulation euphoriquement sociale de la fièvre 48arde, Anselme répondit par un haussement d'épaules individualiste, comprenant le piège dans lequel le peuple, sans vigilance, se laissait enfermer. Il écrivit son essai « Au fait » en 1848, à rebours de la doxa contestataire. Curieusement, sa revue « L'Anarchie, journal de l'ordre » connaît plus d'audience au XXIe siècle qu'elle ne rencontra d'écho en 1850. L'éphémère « Association des libres penseurs » initia un mouvement d'idées, certes sans relais pérenne, mais qui permit cependant à la réflexion d'être menée, libérée des pesanteurs politiques, morales et religieuses. À l'assomption de la nation républicaine, imposant le gouvernementalisme populaire en vertu cardinale, Bellegarrigue répondit par un stratégique repli vers la périphérie des jeux politiciens. Il s'institua en dehors, résolument, à rebrousse-poil. Au barricadisme ambiant qui opposait l'illusion de la violence révolutionnaire à la réalité de la répression du pouvoir, le libertaire chercha dans le droit une réponse au déferlement étatique.
Oui, c'est assez intéressant. Finalement, donc, on connaît de ce Anselme Bellegarrigue son almanach et cette publique. Alors, son almanach, donc l'Anarchie, ou l'almanach de la ville multitude, et le pamphlet, l'essai qu'il a publié, qui s'appelle en effet Au fait. Et ensuite, après sa publication du manifeste qui s'appelle l'Anarchie, eh bien, déçu par la révolution de 1848, qui effectivement est confisquée par le prince-président, est confisquée par Napoléon III, l'interdiction de publication de l'almanach de la ville multitude, il quitte l'Europe et il va donc, comme je vous disais tout à l'heure, s'installer au San Salvador. Et au San Salvador, il crée une faculté de droit autonome au sein de l'université nationale. Et c'est en tant qu'enseignant qu'il va s'exprimer, et il va exprimer à ce moment-là un certain nombre de revendications sociales à travers l'établissement d'un droit nouveau qui est la base aussi de la société autogérée. Par exemple, à un moment, il publie un pamphlet qui s'appelle « Le dieu des riches et le dieu des pauvres ». Ben oui, parce qu'effectivement, comme il y a une justice à deux vitesses, il y a un dieu des riches, un dieu des pauvres. Et de la même façon qu'il va à un moment donné aussi publier au sens salvateur des articles qui viennent de la revue belge Divergence, il va exprimer en effet cette divergence qui existe sans arrêt dans la vie de la population entre ceux qui possèdent et ceux qui ne possèdent pas. Donc les différentes mentions du nom de Belgarrigue reviennent vers la France à partir d'une encyclopédie de droit qu'il fait paraître au San Salvador. Et les articles parus sont ceux qui précisément vont être exploités par les révolutionnaires, par exemple les libertaires grecs qui se réclament de sa pensée. En tant qu'écrivain anarchiste, et jusque de nos jours, il fait preuve d'une sorte de révérence paradoxale à l'égard de ce qui est écrit, à l'égard d'un nouveau système, mais un système justement d'autogestion. Il appelle à la rescousse une vraie science sociale, il appelle à la rescousse une pensée savante d'une nouvelle base sociale. Donc ce sont ces écrits, disons, qu'on pourrait rapprocher de ceux de Bakounine ou de Proudhon, sur lesquels les Grecs se sont fondés pour dire que oui, Anselme Belgarrigue est un des penseurs de leur révolution autogestionnaire. Et il y a aussi un pamphlet publié en 1854 en San Salvador, dont le titre est absolument génial, qui s'appelle « Hourra !» ou « La révolution par les prolétaires ». Donc vous voyez, il y a des choses, je vais vous renvoyer à vos encyclopédies habituelles. Il y a des choses autour du nom de Belgarrigue qui sont assez étonnantes et qui font qu'on retrouve de ces citations dans un certain nombre de mouvements populaires, dans un certain nombre de mouvements révolutionnaires, comme ceux d'Athènes, oui, et puis par exemple celui des indignés de Madrid en 2011-2012. Je vais vous laisser là-dessus. Tout à l'heure, on avait commencé par dire que quand la police tuait des jeunes, il ne fallait pas que les vieux s'endorment. Eh bien, les indignés de Madrid, et sur les traces de Belgarrigue, enfin sur une citation de Belgarrigue, ils ont dit « Si vous nous empêchez de rêver, nous vous empêcherons de dormir ». Donc effectivement, le pouvoir ne peut plus dormir sur ses deux oreilles. D'ailleurs, c'est très difficile de dormir sur ses deux oreilles, vous le savez. Donc, nous sommes derrière les autonomes et les autogestionnaires de Exarchie à Hongrie. Nous sommes derrière les indignés de Madrid. Et nous voulons rêver et ne pas laisser dormir le pouvoir en place, ou en tout cas ne pas le laisser dormir tranquille. Nous voulons réveiller le peuple pour qu'il ébranle les bases du capitalisme. Écoutez, on va vous donner rendez-vous à la semaine prochaine avec d'autres voyages et d'autres citations. Et en attendant, soyez attentifs à ces publications et à ces films de Yanis Yuluntas, dont vous trouverez les bandes-annonces éventuellement longues, de un quart d'heure ou 20 minutes en libre accès sur YouTube. Donc vive Yanis Yuluntas, vive Anselme Belgarrigue et à bientôt.
Here's a song that comes from Tanzania. Malaika.